Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la merde qui s'est fait nommer en Bretagne, il était un instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.
Bienvenue à l'émission Il était une fois un livre. Donc ce matin, je retrouve avec plaisir notre invité des matins de cette semaine, puisque je vous rappelle que je suis passée à deux invités par semaine depuis hier. Donc tous les matins cette semaine, c'est Sophia Tahi qui vient nous présenter, nous parler d'une grande artiste américaine qui était Nina Simone. Bonjour Sophia.
Bonjour.
Donc hier, nous nous sommes quittés, vous avez commencé à nous parler de son premier acte de politique, rébellion, enfin de prise de conscience, elle avait 10 ans. Déjà là, on sent un caractère quand même bien trempé, qu'on retrouvera tout au long de sa vie. Mais à la fois, c'est aussi un caractère qui était nécessaire, puisqu'elle est quand même les années, ce sont les années 40, 50, 60, où une femme noire doit s'imposer. Bon, elle avait le caractère dès le départ, finalement.
Oui, je pense que de toute façon, pour travailler son instrument avec autant de rigueur, je pense qu'il faut un caractère. Il faut être très déterminé, et voire même obstiné. Je pense que elle avait tout ce qu'il fallait pour elle était bien armée, ouais, pour affronter ce genre de situation.
Alors une enfance heureuse, musicale, heureuse auprès de son, alors notamment de son père. Je n'ai pas précisé hier à l'émission, mais effectivement cette émission a été préparée à partir d'une biographie que vous m'avez conseillée, qui est de David Brin Lambert et qui s'appelle tout simplement Nina Simone. Et il explique ce contexte familial avec une mère quand même très absente ou très prise par son travail et un père qui a été là toute sa vie de manière inconditionnelle.
Oui, tout à fait. Ouais. Elle avait une relation très, très particulière avec son père. D'abord parce que quand elle était très jeune, lui est tombé très malade. Et comme sa mère était au travail, ses frères et sœurs étaient à l'école, c'est elle qui s'occupait de son père. Donc déjà, ça a développé un lien très particulier. Je pense que quelque part, elle devait être sa préférée. En tout cas, c'est ce qui semble paraître. Donc elle avait un lien très particulier avec sa mère. Donc, avec son père, pardon. Donc elle aussi, ouais, entre son papa, l'église avec sa mère, et puis les cours de musique avec son professeur, Miss Massinovitch.
Une grande sœur aussi.
Oui.
Parce qu'elle est quand même... Il y a une fratrie.
Oui.
Et une grande sœur qui a joué un rôle de substitut par rapport à la maman qui était... Alors, pas très présente, mais non plus de manière affective. Il n'y avait pas de lien. C'était pas très tactile, la maman, pas très démonstrative.
Non, mais je pense que on était dans déjà une époque très dure, très rude. Et puis, je pense qu'il y avait cette pudeur toute religieuse qui faisait que les contacts physiques, pas trop, finalement. Je pense qu'il y avait toute cette chape, parce que la religion était vraiment très, très, très importante au cœur du foyer Simone. Ça rigolait pas du tout avec la religion. Donc, je pense que ça a dû influencer peut-être sa maman. Et puis, je pense que peut-être sa maman était juste pas tout à fait... c'était pas dans son naturel, quoi. Ce qui peut arriver.
Vous dites que c'était une famille très religieuse. Dans la famille de sa mère, il y avait plusieurs pasteurs. C'était vraiment une lignée ou une famille très religieuse.
Oui, oui, oui. Oui.
Et dans la pratique.
Ah oui, dans la pratique.
Et la réputation à tenir.
Absolument, le comportement à avoir. Oui, oui, tout à fait. C'était vraiment...
Le travail acharné, pas d'alcool. Enfin, c'était...
C'est ça. Pas de musique autre que musique religieuse, pas de blasphème, pas de flagornerie, pas de... Ouais, c'était quand même assez sévère, je pense, un peu strict.
Donc elle avait ce contexte familial qui favorisait ce travail acharné au piano, où elle passait toutes ses heures d'insouciance. Je ne sais pas si on peut parler d'insouciance, d'ailleurs. Enfin, tout ce qui était en dehors de l'école, c'était le piano, quoi.
C'est ça.
On peut même se demander à la lecture de ce livre si elle a un jour été insouciante, connu la légèreté de l'enfance.
Bah non, justement. Je pense vraiment qu'elle, toute petite, elle a eu le poids des regards, le poids de la considération, quelque part, et le poids des espoirs de sa communauté noire et des attentes de la communauté blanche. Donc il fallait qu'elle soit à la hauteur des espoirs, en fait, des espérances. Et donc du coup, non, je pense qu'elle a jamais eu d'insouciance. Je pense qu'elle a eu une scolarité normale, tout en continuant. Alors, fait assez intéressant, la communauté blanche soutenait tellement cet enfant qu'ils ont monté un fonds dans la ville de Tryon. Eunice Wayman Fund. Donc,
pour financer
ses études, parce que Miss Massinovich pensait vraiment qu'elle avait un véritable potentiel et que bientôt, ce qu'elle-même pourrait enseigner à Eunice, ça allait s'arrêter et qu'il faudrait qu'elle aille au conservatoire étudier quoi, pour devenir concertiste vraiment. Et donc on savait bien que ça coûtait de l'argent. Donc pendant toute la scolarité de Eunice, la ville s'est cotisée pour monter un fonds pour pouvoir lui permettre d'aller étudier au Curtis Institute, qui est le grand conservatoire aux États-Unis, qui a formé tous les plus grands musiciens classiques. Alors, ça aussi, ça met une pression, parce que du coup, y a plutôt intérêt de le réussir, l'examen, parce que là, déjà, dans la famille, ça n'a pas passé. Et ensuite, au niveau des communautés, c'est un poids assez important sur les épaules, quand on est jeune, je pense, à porter. Et puis... grand drame, elle s'inscrit à la Juilliard School pour préparer l'examen d'entrée du Curtis Institute. Donc rien que ça, ça coûte de l'argent. Toute la famille déménage à Philadelphie pour être plus proche de leur fille, parce que tout le monde est persuadé qu'elle va rentrer au Curtis. Or, elle est refusée à l'examen d'entrée. Et ça, c'est le désespoir total, quoi. Parce que personne comprend, parce que tout le monde pense qu'elle a le niveau. Parce que c'est des années de travail subitement anéanties. Donc ça aussi, ça a été un... Enfin, je pense qu'elle, ça a été un choc.
Et elle finit par croire que c'est parce qu'elle est noire qu'elle n'a pas été reçue, quoi.
Voilà. Son frère lui instille un peu cette idée. Et puis elle finit par le croire, ouais. Ouais, elle finit par se dire qu'elle n'est pas admise parce qu'elle est noire.
Et c'est vrai que pour elle, c'est le désespoir, parce que concertiste, c'est quand même ce qui lui tient à cœur, et c'est ce qu'elle a toujours pour objectif. Même quand elle chantera ou qu'elle aura du succès dans les cafés ou Atlantic City, après, quand elle commence à être connue, en fait, elle, pour elle, c'est purement alimentaire, en vue toujours
tout à fait
d'une carrière de concertiste.
Absolument, absolument. Parce qu'une fois qu'elle est refusée du Curtis Institute, il n'y a plus d'argent dans le fond, et il faut qu'elle travaille pour pouvoir continuer à se payer des cours particuliers chez un professeur qui s'appelle Sokolov, qui coûte quand même relativement beaucoup d'argent. Elle sait que sa famille ne pourra pas subvenir à ses besoins, donc elle trouve différents boulots et elle continue de prendre des cours. Quand elle arrive à Atlantic City, on est en 1954, elle y va parce qu'elle a rencontré une amie qui lui dit « moi je vais à Atlantic City tous les étés travailler ». Alors cette amie est une prostituée, donc elle le crie pas sur tous les toits. Et elle explique à cette amie, moi je veux bien venir avec toi, mais par contre il faut que je travaille parce que sinon c'est pas possible. Et cette amie lui dit, mais tu vas trouver des petits clubs où jouer du piano. Ah oui, d'accord, bonne idée. Elle descend et effectivement elle trouve un petit lieu.
Un bouge, comme dirait.
Un bouge. ouais, sans nom. où qui l'engage. Et le premier soir, elle joue du coup pendant. Alors, elle joue de minuit à 6 ou 7 heures du matin. Donc, c'est une longue amplitude horaire. Et elle joue du piano. Et le patron, à la fin de la première nuit, lui dit
ça va pas le faire.
Ça va pas... Soit tu chantes, soit t'es viré, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'elle commence à chanter, en fait. Parce qu'avant, elle ne chante pas. Elle joue uniquement du piano. tout en se disant, bah, c'est très bien, moi je mets de l'argent de côté pour pouvoir continuer à prendre des cours chez Sokolov et pouvoir retenter mon concours d'entrée au Curtis Institute. Elle n'a que ça en tête. Et ça continue pendant toutes les premières années de sa carrière, en fait, où elle, d'accord, tu veux que je chante, j'ai entendu ça, je vais... Et en fait, à Atlantic City, c'est là qu'elle a, elle a mis sa recette au point. Parce que du coup c'est là qu'elle amène le classique, c'est là qu'elle prend des airs de pop, de folk qu'elle entend, qu'elle saupoudre d'un peu de cantique gospel qu'elle a chanté toute sa vie à l'église, qu'elle mélange avec un petit peu de blues, et puis des morceaux de variété complète, puis c'est là aussi qu'elle découvre pas mal de chanteurs comme Bessie Smith ou bien comme celle qui va quand même pas mal l'inspirer, Billie Holiday, parce qu'elle en a jamais entendu parler, elle, en fait. Et quand elle découvre cette musique, elle se dit que... Enfin, c'est de la sous-musique, quoi.
C'est de la soupe.
C'est de la soupe. C'est de la pure soupe. Je vous chante ça. Si ça peut me rapporter de l'argent pour aller à mon but, je vais le faire. Mais elle a une très mauvaise considération de tous ses airs, pop, folk. Elle, dans sa vie, il n'y a que le classique, en fait. Et pendant toutes les premières années de sa vie, et c'est ce qui se passe d'ailleurs quand elle enregistre en 1956 son premier album, elle s'en fout. Ce qu'elle voit, c'est qu'elle est bien payée pour le faire et qu'elle peut
continuer
ses études. Et c'est un peu ce qui la perd, parce que le fait de s'en moquer autant, pour son premier album, elle signe un contrat qui dit qu'elle cède tous les droits de commercialisation, elle garde juste le droit d'interprétation des titres. Mais tous les droits commerciaux, etc., etc., elle les signe à la boîte de production, Bethlehem. Et c'est ce qui causera son drame une quarantaine d'années plus tard, quand My Baby Just Cares ressurgit dans les années 80 en France redevient un tube mondial. Et donc là, l'argent coule à flot et elle n'aura rien. Et ça, c'était compliqué. Ouais.
Il précise, David Brin-Lambert, là, dans son livre, que son entourage a été quand même... un petit peu ça, ce qui a causé sa perte. Elle n'a pas toujours su bien s'entourer.
Nina Simone, c'était une musicienne. Elle voulait juste que quelqu'un soit son manager, s'il y avait besoin. Elle, dans sa tête, elle a intégré un orchestre classique. Donc, s'entourer, oui, je pense même pas qu'elle avait cette notion-là en tête. Elle a trouvé un agent qui lui trouvait des concerts. C'est très bien, ça fait de l'argent pour que je puisse continuer mon travail dans les études de musique classique. Je pense que ça allait pas tellement plus loin que ça, parce qu'elle avait jamais eu de velléité de devenir une star de la musique ou du jazz. Surtout que ce mot pour elle était... Ouais, c'était compliqué, ouais.
Elle, c'était le classique, quoi.
Classique.
Alors, hier, on a entendu comme chanson « I love you, Porgy » en premier titre à écouter. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi « Mississippi Goddam ». Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots avant de laisser place à la musique ?
Alors, « Mississippi Goddam », c'est un des premiers titres
politiques
qui marque vraiment son engagement dans le combat des droits civiques. Jusqu'à ce titre, si on regarde un petit peu sa discographie, les titres sont très légers. C'est très jazz, effectivement. C'est très histoire d'amourette, etc., etc. Mais pendant toute cette période, elle fait la connaissance de grands auteurs et de grands penseurs intellectuels noirs afro-américains. Parce qu'elle, là, à partir des années 56-57, elle est à New York. Elle commence sa carrière, elle commence à être célèbre. Et elle rencontre notamment James Baldwin, Leroy Jones, Langston Hughes et surtout sa grande amie, Lauren Hansberry. Lauren Hansberry, et c'est ces quatre personnages qui vont lui faire prendre conscience de sa condition de femme noire et de la condition des Noirs dans le pays et de l'histoire même des Noirs de ce pays. Parce que finalement, on se rend compte que les Afro-Américains ne, ne, ne comprennent pas vraiment leur situation, ni leur provenance, ni leur histoire, n'ont pas connaissance de cette histoire. Et donc, elle s'engage vraiment à partir des années 60 dans le mouvement des droits civiques. Et ce titre-là, Mississippi Goddamn, ça veut dire « foutu Mississippi », c'est vraiment le pavé, le tournant que sa carrière prend. Où là, vraiment, à partir de ce titre-là, elle s'engage. Donc, Mississippi Goddamn, elle, c'est une critique ouverte sur l'état du Mississippi, de la condition des Noirs, dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas, en fait, dans ce titre. Alors, ça fait un gros scandale.
Oui, ça dérange un peu, quoi.
Ça dérange complètement. Déjà, parce qu'il y a Mississippi Goddamn. Alors, foutu Mississippi, dit en français comme ça, ça semble très léger. Mais Goddamn, en fait, aux États-Unis, c'est un blasphème. Donc, déjà, c'est quand même quelque chose qui est déjà assez offensif. Et ensuite, ben, parce que là, on est clairement... Alors, en plus, là, on est dans les années 60, on commence à vraiment avoir les choses qui bougent au niveau des droits civiques. On commence à avoir des populations noires dans les États du Sud qui commencent à se rebeller, qui commencent à faire des manifestations, qui commencent à demander leur liberté, leurs droits. On a un Martin Luther King qui commence à devenir de plus en plus actif. On a des Rosa Parks qui commencent à lancer des manifestations. On a tous les mouvements, parce qu'il y en a eu énormément, en fait, en France, on connaît surtout Martin Luther King et on connaît surtout Rosa Parks, mais en fait, il y a eu énormément d'acteurs des droits civiques dont on connaît pas forcément l'identité ici, des associations comme la NAACP, etc., qui commencent à bouger. Et donc, on a en plus cet artiste qui arrive avec une galette pareille et qui nous met un pavé dans la mare, qui est juste une pure agitatrice, en fait, quoi. Et donc là, ça passe pas bien. Ça passe pas bien avec les maisons de disques. Ça passe pas bien avec les distributeurs du disque dans les États du Sud, qui renvoient carrément les disques cassés en deux, qui renvoient ça à New York. On veut pas de ça chez nous. Et c'est vraiment un des titres qui va vraiment marquer son engagement dans
les débuts
de
son engagement politique. Ouais. Eh bien, écoutez, nous vous laissons en compagnie de Nina Simone et de Mississippi Goddamn. Et nous retrouvons demain matin pour continuer à parler encore de Nina Simone. À demain.
À demain.
Place à la lecture dans Il était une fois un livre.
Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était à l'instituteur de ça.
Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.